France Culture.
Les nuits de France Culture.
Le loup-garou est une créature étrange, terrifiante, à la frontière de deux mondes que tout oppose. D'un côté, c'est une bête sauvage, assoiffée de sang, que rien ne peut arrêter. D'un autre, il conserve des caractéristiques humaines, un visage qui parfois s'illumine de restes de raison et d'humanité. C'est cette hybridité ambiguë qui rend tenace le mythe du loup-garou, dont les origines sont ancrées dans la terreur qu'inspiraient les loups autrefois. C'était d'ailleurs le seul animal au XVIe et au XVIIe siècle que tout le monde avait le droit de chasser, qu'importe le statut social. La chasse était sinon réservée aux nobles. Comment ce loup, qui peuple les contes et les cauchemars des paysans, se transforme-t-il en loup-garou? Quels sont les ressorts sociologiques et ethnologiques de la création d'une telle légende? C'est à ces questions que sont invités à répondre le folkloriste et mythologue Claude Guaignebé, la chercheuse et spécialiste de la littérature du XVIIe siècle Sophie Houdard, dans ce troisième de cinq épisodes de la série « Histoire de loup-garou » de Lise Andriès pour les chemins de la connaissance. Une émission diffusée pour la première fois le 27 novembre 1991 sur France Culture.
J'avais une chance extraordinaire. J'y voyais comme en plein jour. Il faisait le plus beau clair de lune dont je me souvienne dans ma carrière de chasseur. J'étais calme et sûr de moi. Je me tenais à l'affût derrière le pilier de gauche, l'entrée du cimetière, dont les tombes m'apparaissaient sous la lune comme les petites cases d'un damier en noir et blanc. Et j'étais bien tranquille. Je ne pouvais rater mon coup, car j'avais repéré chacun de ces casiers et rien d'insolite ne pouvait m'y surprendre, car j'étais préparé à tout. J'avais glissé la cartouche du prêtre dont la balle est en argent dans ma carabine Winchester et j'avais bien en main mon lasso de 7 qui, si j'avais la chance de capturer le monstre vivant et de le ramener ligoté, selon les déclarations du père Urbano, devait lui permettre d'exorciser le loup-garou et de débarrasser une fois pour toutes la région de cette engeance satanique. J'avais aussi la gourde d'eau bénite dont je buvais de temps en temps un coup en me signant, mais j'ouvrais l'œil et le bon. Je suis incapable de dire d'où il vint, mais tout à coup, l'être sans nom fut là, à moins de 6 pas, perché sur une tombe. Il avait les oreilles mobiles, un museau en suçoir avec 2 longs crocs qui lui pendaient des commissures des lèvres, l'échine en lame de couteau, un poil roux, très touffu sur le train arrière, des bras et des jambes démesurément longs, le torse un peu plus faible que la taille d'un homme, son sexe bien en évidence, le ventre blanc, le front plissé. Il louchait des 2 yeux et comme un singe, il avait 4 mains, mais le pouce en griffe.
C'était un extrait d'une nouvelle de Blaise Cendrars, le colonel Bento, paru dans D'Outre-mer à Indigo. Il existe une tradition littéraire concernant les récits de loup-garou qui va d'Hérodote et Ovide à Maupassant, Erckmann Chatrian et Cendrars. On y trouve la plupart des composantes de la légende, les conditions de la métamorphose de Manloup, les raisons de cette métamorphose qui peut être due à un châtiment ou à un pacte avec le diable, etc. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de décrire le loup-garou d'un point de vue ethnologique, de voir comment il s'intègre au folklore, à la culture orale, et à des pratiques comme la chasse au loup, par exemple. On s'apercevra ainsi que le loup des contes emprunte bien des traits à la créature monstrueuse, mi-homme, mi-bête, qu'est le loup-garou, et qui, par sa nature hybride, est sans doute plus terrifiante encore que l'animal auquel elle emprunte la sauvagerie et le goût du sang. Car la notion de frontière entre vie civilisée et vie sauvage est au centre de ces interrogations. Le loup-garou hante les forêts, les landes et les espaces non cultivés dont la proximité menace le village. Comme la bête du Gévaudan qui défraya la chronique entre 1764 et 1767, il est l'être surgi du cœur de la nuit, lorsque les forces maléfiques se déchaînent, celui enfin dont la métamorphose advient le plus souvent lorsque la lune est pleine et que circulent les âmes. Sophie Houdard, vous avez participé à l'édition critique de l'ouvrage de Jean de Ninot « De la lycanthropie, transformation et extase des sorciers » paru l'an dernier aux éditions Frénésie. Claude Guignebé, vous êtes ethnologue et vous avez publié un chapitre consacré au loup-garou dans le dernier volume de la Pléiade, « Histoire des mœurs », dirigé par Jean Poirier. Alors, la première question, j'aimerais la poser à Sophie Houdard, elle concerne la pratique de la chasse, justement, dont je viens de parler, et j'aimerais savoir quelle est la place du loup et du loup-garou dans les traités de chasse.
Bien, alors moi je voudrais rappeler que la chasse est dans tous les traités, en tout cas ceux que j'ai pu consulter de la fin du XVIe et du début du XVIIe, considérée comme un art noble, réservé aux nobles, puisqu'elle est là pour leur apprendre l'art de la guerre et l'art de se défendre contre les bêtes sauvages. Le roi, se donne le droit d'afforester, c'est-à-dire de délimiter des terres aussi vastes qu'il le souhaite, qu'il soumet à un droit qui n'est pas le droit du royaume, pour pouvoir chasser les bêtes sauvages. Or, il est un animal qui n'est pas réservé à la chasse aux nobles, c'est le loup. C'est le seul qui peut être chassé par tout le monde, avec tous les instruments possibles et imaginables. On lit dans certains traités qu'on peut utiliser des poudres venimeuses. Donc ça n'est pas un animal qu'on chasse noblement, alors que le cerf, par exemple, qui est l'animal du roi par excellence, est chassé noblement, c'est-à-dire sans ruse et avec des armes elles-mêmes nobles. Le loup, qui a des périodes de chasse privilégiées, reste quand même un animal qu'on a le droit de chasser toute l'année, même si il est sujet à une chasse dont les datations sont importantes et sur lesquelles, je crois, on reviendra un petit peu plus tard, sans doute, avec Claude. Disons donc que pour l'instant, le loup est un animal vil, considéré comme malfaisant, mais c'est vraiment le plus mauvais de tous, hein, parce que même la marthe, qui est un animal mauvais, n'a pas le droit d'être chassée par les roturiers.
Et quel est le rituel de mise à mort ? Est-ce qu'il existe un rituel de mise à mort ?
C'est-à-dire que le rituel le plus codifié, c'est celui du cerf, qui est un petit peu l'antagoniste vraiment du loup. Le cerf qui est soumis à une découpe extrêmement ritualisée, hein, puisque les parties du cerf sont données soit au grand veneur, soit au roi s'il est là, évidemment, soit au seigneur, au justicier s'il est là, soit au chef des limiers. Eh bien, il y a une découpe extrêmement précise pour le cerf. Le loup, à l'inverse, tous les traités s'accordent pour dire qu'il faut le vider, le remplir de fromage, de chèvre et le donner au chien.
Ah oui. Bon,
c'est vraiment le seul animal parmi les bêtes rousses et noires, parmi les grosses bêtes, qui ne relève absolument pas d'une découpe ritualisée. On le donne à manger au chien. Il faut d'ailleurs lui mettre de la chèvre à l'intérieur parce qu'il pue, dit-on, tellement que même les chiens n'en veulent pas.
Et alors le loup-garou, est-ce qu'il apparaît ?
Alors, le loup-garou apparaît par exemple chez Gaston Phoebus. Bon, c'est un texte plus ancien qui date de la fin du Moyen-Âge. Mais on le retrouve même dans d'autres traités. Incidemment, il est question de ces loups qui se sont encharnés aux hommes, c'est-à-dire qui ont pris l'habitude de manger de l'homme et qui aiment tellement manger la chair humaine qu'ils ne peuvent plus manger rien d'autre que de l'homme. Et on dit loup-garou, gardez-vous-en.
Ah oui.
Loup dont on se garde, loup-garou.
Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de glissement étymologique.
Ce
qui est extraordinaire, c'est de voir que les contes populaires aime encore bien associer la chèvre et le loup.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Le loup rempli de chèvre, ça rappelle tellement le loup et les sept biquets que nous connaissons tous, avec le ventre ouvert. Et je crois que le rapprochement par les spécialistes des contes n'a jamais été fait.
Oui, et
pourtant
c'est pratique de chasse.
Oui. Qu'on ait cette
d'autant
association. Elle est relativement ancienne, puisque les loups-garous latins, si on veut, sont luperques.
Oui.
C'est-à-dire mi-bouc, mi-loup.
Oui.
Et que quant au déguisement, on a toujours beaucoup hésité pour savoir s'il s'agissait de déguisement en loup ou en bouc, puisque c'est le sacrifice d'un bouc qui donne le titre de luperque.
Oui.
Et il me semble qu'entre la chèvre et le loup, si on peut dire, il faudrait voir comment ça passe, pas forcément du côté du chou.
Mais je voudrais revenir quand même à la mise à mort. Alors, à la mise à mort, pas forcément du côté des chasseurs, mais du côté du loup et du loup-garou. Il y a des descriptions, je crois, dans les textes anciens, chez les démonologues du XVIe et du XVIIe, concernant, de façon très précise, la façon dont le loup-garou tue ses victimes. Est-ce que vous avez l'impression, Sophie Houdard, que dans ce domaine, la frontière est établie entre une espèce de sauvagerie du loup-garou ou au contraire une certaine humanité qui est conservée?
C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des textes ambigus. À la fois, on va insister sur l'extrême sauvagerie du loup-garou, à savoir qu'il est plus sauvage qu'un loup, puisque la plupart des démonologues insisteront sur le fait que même les loups ne se mangent pas entre eux, et que les loups finalement vivent en société, et que le loup-garou est une sorte de bête... encore plus mauvaise que la bête. Bon, là, il y a tout un jeu sur une figure d'analogie. L'homme devient plus mauvais qu'une bête. Bien, alors, il y a ce côté-là. Il est plus rapide qu'un loup. Il est plus violent qu'un loup. Il est plus enragé qu'un loup. C'est une sorte de super loup. Et en même temps, il garde des traces d'humanité. Pour la bonne raison qu'on sait bien que tous vont s'efforcer de montrer que l'homme ne se transforme pas complètement en loup. Et on va voir des textes qui vont insister sur cette figure d'une bête qui déshabille ses victimes avec finalement une délicatesse tout à fait étrange et suspecte. Que ce soit Pierre de Lancre ou Boguet, qui sont deux juges du début de l'âge classique, du début du XVIIe.
Oui, démonologues, je vous interromps une seconde, démonologues, ce sont donc des spécialistes en sorcellerie.
Oui, c'est même des juges qui ont eu affaire dans leur carrière judiciaire à des loups-garous. Bon, celui de Lancre est assez célèbre puisqu'il a eu affaire à Jean Grenier, qui est un enfant loup. Jean Grenier, dit de Lancre, ne déchire aucunement la robe de la jeune fille qu'il a mangée, il les prenait à la gorge avec les dents, comme ferait un homme naturel, et non avec les pattes, qui est l'ordinaire des loups. Bon. Alors, il y a ces curieuses réflexions sur un homme naturel. Est-ce qu'un homme naturel a une manière naturelle de dévorer les femmes? Enfin, on peut se le demander. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est un loup artificiel? Est-ce que c'est un homme artificiel? Bon, les mots sont assez équivoques pour montrer la gêne. Et je rappellerai rapidement que dans l'arrêt de Dole, concernant cette fois Garnier et non plus Grenier,
autre loup-garou,
condamné lui aussi.
Il
a été condamné pour avoir mangé une jeune fille tandis qu'il était homme. Et à chaque fois, on insiste beaucoup sur ce moment où ce n'est plus une bête qui agit, mais c'est vraiment un homme. Et alors, les mots sont très clairs. Il avait des mains comme des pattes, ou bien à guise de pattes. Hein, mais les textes sont très précis pour montrer que la métamorphose n'est pas complète.
Mmh. Grenier, c'est 1570.
Oui, c'est ça. L'arrêt d'Ole, c'est 74, au Parlement de Dole. Bon, et l'autre loup-garou date du début 17e, 1603, Parlement de Toulouse. Juridiction de Toulouse.
Là encore, je crois que le loup du petit Japon rouge agit avec beaucoup de délicatesse à l'égard des vêtements du petit chaperon rouge, au moins dans les versions où le petit chaperon rouge est couché à côté du loup grand-mère et lui demande à chaque fois « Dis grand-mère, qu'est-ce que je fais de mes bas ?» Elle les retire, « Jette-les dans le feu, tu n'en auras plus besoin. » Et comme ça, peu à peu, elle se déshabille, dépouille, mais pièce à pièce, c'est pas du tout, en effet, il n'y a aucune pièce déchirée, on y insiste, elle les retire peu à peu. Avec dans le conte un arrière-plan de connotation sexuelle.
Érotique, oui, bien sûr. Dans le cas d'ailleurs des jeunes lycanthropes aussi.
Mais alors, la gentillesse du loup-garou me semble plus marquée dans les récits médiévaux. Mmh. Puisque je pense à un lait ou à une histoire comme Arthur et Corlagan, où c'est le chevalier d'Arthur qui a été obligé par sa femme, c'est encore tout un thème, de rester loup-garou. Il a donné son secret à sa femme, il est obligé de rester de l'autre côté. Arthur le rencontre un jour, il est très surpris de trouver un loup qui lui fait les plus grandes démonstrations d'amitié, qu'il utilise comme un chien, qu'il garde avec lui, et il ne comprend absolument pas quel est ce genre de loup. Et c'est là qu'il le garde assez longtemps, et qu'il y a aussi un problème de vêtements au moment où il retrouve sa forme masculine, parce que le loup est timide. Le loup, ce loup-garou est très timide sous sa forme loup, et il n'accepte, parce qu'il sait qu'il va se retrouver tout nu, et finalement, il n'accepte de retrouver sa forme humaine que lorsqu'on le laisse, on précise, dans une chambre, isolée, et là, il va pouvoir retrouver enfin ses vêtements.
Alors justement, Claude Guéniobé, vous avez évoqué l'univers des contes. Quelle est la place finalement du loup et d'un loup qui ressemblerait étrangement à l'homme dans les contes? Est-ce que vous voyez des exemples de contes où nous sommes quand même très proches du thème du loup-garou?
On a bien sûr le petit chaperon rouge. On a beaucoup de récits dans lesquels un homme se transforme en loup par l'intermédiaire d'une pièce de vêtement, le plus souvent. On a un récit assez répandu en France où c'est une ceinture verte qui est vendue et qui brusquement fait que l'homme se transforme en loup, ou la peau du loup, bien entendu, qui le transforme. L'impression que j'ai quand on voit l'ensemble de ces récits de la tradition populaire, c'est que véritablement, au départ, il n'y a pas de distinction entre l'homme et le loup. Le terme de Versipelles est clair.
C'est il faudrait l'expliquer.
C'est-à-dire, en tout homme, il y a un loup, en tout loup, il y a un homme. Et ça me paraît central. Quand on essaye de se dire, est-ce que ça sent sauvage d'un côté, ou est-ce que ça se civilise de l'autre, ou d'opposer nature et culture du côté du loup-garou, non. N'importe quel loup, dans certaines conditions, va devenir un homme. N'importe quel homme, j'insiste, dans certaines conditions, va devenir un loup.
Oui, mais Claude, il faut expliquer ce que c'est que le versipelle. Expliquer d'une façon presque physique ce que c'est.
Moi, je crois que l'image...
D'abord, c'est le mot latin pour loup-garou.
Vous savez, c'est le retourne-peau. Je crois que c'est la meilleure traduction, un retourne-peau. On peut comparer ça à une veste qui se retourne, donc. Mais j'aime mieux le comparer à un tube qui se retourne. Vous savez que Lacan aimait beaucoup ça aussi, travailler sur la façon dont un tube peut se retourner. Parce que le tube humain a pas mal d'avantages, il a deux extrémités. Il peut se retourner par le haut, il peut se retourner par le bas. Il y a des aspects très eschatologiques du loup. Par le haut, il peut se retourner soit en s'invaginant, soit en s'exvaginant. Il suffit d'imaginer, finalement, ce tube. Et quand on a cette image, c'est-à-dire quand on se dit que d'un moment à l'autre, dans certaines conditions, le loup qui est en nous peut apparaître, c'est relativement simple. Par exemple, vous savez ce texte célèbre que nous avons tous lu, « Sur la Noël morte saison, que les loups se paissent devant. » Villon. Début du Testament. Ça veut dire que pendant la période de Noël, les 12 jours, les loups mangent du vent, c'est-à-dire en fait jeûnent. S'ils jeûnent, c'est manger le tube que nous formons.
Mais le versipelle, c'est quand même celui qui a la propriété d'avoir une peau d'apparence normale quand il a l'apparence humaine, avec les poils de bête en dedans, et de retourner sa peau avec poils de bête en dehors quand il devient loup-garou.
Ce qu'il faut savoir, justement, c'est quelles sont les conditions qui favorisent ce retournement. Donc, on a sûrement le jeûne. Alors, le jeûne, ce que je pourrais appeler le jeûne païen. Le jeûne païen, c'est la période des 12 jours, avec toute une série d'histoires de loups, de loups-garous, pendant la période des 12 jours qui vont de Noël à l'Épiphanie. Là, les loups mangent du vent. Alors, les loups mangent du vent, et en mangeant du vent, c'est-à-dire finalement en jeûnant, eh bien, ils mangent le tube qu'ils forment, et quand on mange un tube, on finit par le faire disparaître, par le retourner. Et en effet, ils apparaissent comme des loups-garous, c'est-à-dire... poil intérieur, en effet, apparaît. Ça, c'est une première condition. Il y a des conditions qui sont des conditions chrétiennes. Alors, les conditions chrétiennes, dans toute la tradition slave, par exemple, on estime que les loups-garous vont courir pendant le carême. Alors, là aussi, le carême, qu'est-ce que c'est si ce n'est les hommes qui jeûnent? Eh bien, quand les hommes jeûnent, hop, ils vont faire réapparaître ainsi le loup. À chaque fois que l'on a un état intermédiaire, on va voir apparaître. On peut bloquer cet être intermédiaire. Vous savez, c'est ces images et gravures que l'on a, soit de tête d'homme et de pattes de loup, soit de tête de loup et de pattes d'homme. Qu'est-ce qu'on a fait? On a bloqué le retournement. J'aime mieux que métamorphose. Le retournement de la peau à un certain stade.
Alors, il y a la ceinture verte que vous évoquiez, il y a la pelisse de loup qui peut d'ailleurs être donnée par le diable dans certains cas, il y a les onguents aussi qui sont les conditions de la métamorphose, quelquefois. Ça apparaît dans certains contes.
Il faut voir où ils sont situés, et il faut voir quels sont leurs effets. Généralement, on pense que c'est des effets sur l'esprit et hallucinogènes. Les onguents, là aussi, je pense qu'il faudrait les voir indépendamment de leurs effets, si je peux dire. C'est-à-dire... l'aspect que peut donner un onguent lorsqu'il est passé sur la peau, un aspect là aussi lisse, et avec tout un jeu que je crois sur le lisse et le pas lisse, le hérissé, le velu, oui, oui, et l'aspect lisse. L'onguent va commencer à donner, là où il est déposé, un aspect lisse.
Et alors la pleine lune ? Parce que c'est souvent aussi une des conditions de la métamorphose, le loup-garou se transformant à la pleine lune. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette condition-là ?
Ce que nous apprend au moins le petit chaperon rouge, c'est clair, c'est que à un certain moment, lorsque les jeunes filles sont rouges, probablement sont menstruées et impures, il faut qu'elles aillent dans la forêt, et que là, elles sont la proie des jeunes gens qui sont transformés en loups, qui existent sous la forme de loups, puisqu'il y a des périodes probatoires qui sont, disons, toute la période des phébies, où on appelle les jeunes gens, on les appelle loups dans la tradition indo-européenne. Il me semble que c'est quand même la grande leçon du petit chaperon rouge, c'est que simplement au moment où les jeunes filles sont dans la forêt, elles sont la proie des hommes qu'on appelle les loups, tout à fait naturellement.
Disons. Mais alors, à quelle période de l'année ?
Ça, c'est pas forcément une période de l'année. C'est parce que c'est des périodes qui duraient parfois 2 ou 3 ans. Pendant 2 ou 3 ans, on chassait, on avait le droit, c'est les phébies, on a le droit de chasser les hommes comme les loups. Et ce qu'on nous disait tout à l'heure de la chasse me paraît très important, parce que c'est le statut de la chasse qui fait le loup. Désormais, vous avez le droit de tirer à vue, si on peut dire, sur les éphèbes, de façon à ce qu'ils apprennent à se comporter comme des loups. Au moins pour un certain nombre, puisque d'autres doivent se comporter comme des ours, mais c'est un autre problème. Alors, de temps en temps, l'homme retrouve cet état d'éphèbe. C'est-à-dire, de temps en temps, il est contraint de revenir à cette période de loup-garou. Alors quand ? En fonction de la lune. On sait que la lune va modifier le cycle lunaire, menstruel, de sa femme. Il y a un moment où il ne doit absolument pas s'en approcher. C'est quand elle est impure. C'est le moment, disons, où il se retrouve dans la position, soit qu'il s'en approche, soit qu'il soit obligé de s'en éloigner, il se retrouve dans la position de l'éphèbe. Et c'est pour cela qu'on insiste toujours sur la phase lunaire pour les histoires de loup-garou. On insiste sur la phase lunaire, c'est-à-dire que tout homme est obligé, du moment qu'il est marié, j'insiste. Alors, soit du moment qu'il est célibataire, soit du moment que, pendant le mariage, il se retrouve avec une femme impure, se retrouve en état de loup-garou. Et si sa femme, c'est ce que l'on a dans tendresses médiévaux, s'arrange pour qu'il reste de l'autre côté.
Ah, ça, c'est le bisclavret de Marie-France, oui.
C'est le bisclavret. C'est Arthur et Corlagan. À chaque fois, la femme parvient à, disons, à prendre son secret et à le laisser
de l'autre côté. La frontière.
À le laisser de l'autre côté, à faire qu'il ne puisse pas. Et toujours, enfin pratiquement toujours, par l'intermédiaire d'un amant. C'est-à-dire par l'intermédiaire de quelqu'un qui, j'imagine, puisqu'elle est considérée souvent comme prostituée, elle est même considérée comme lépreuse dans Arthur et Corlagan, et le nez lui tombe. Le loup lui arrache le nez. Vous savez que le loup, c'était en même temps un mâle, le lupus. C'est quelque chose qui déformait la face. Ouais. Les hommes peuvent devenir loups, hein, le lupus. Eh bien, dans ce cas-là, si un amant accepte d'être avec elle à la manière d'un loup, les loups étant considérés comme ceux qui choisissent les femmes les pires.
Les femelles choisissent le pire.
Eh bien, le bon mari reste de l'autre côté.
Ce qui expliquerait peut-être aussi les problèmes sexuels, enfin, qu'on rencontrait souvent dans les affaires de lycanthropie, où on a des jeunes gens qui cherchent des filles, en fait, dans la forêt. Bon, et il y a une reconstruction démonologique par-dessus. Mais en fait, ce qu'ils cherchent, ce sont des filles, quoi. Dans le cas de Grenier, c'est évident.
Sophie Houdard, Claude Gagnebé évoquait des périodes précises de l'année où les femmes risquaient de rencontrer le loup, éphèbe ou guerrier loup. Mais qu'en est-il alors pour la chasse ?
Tout à l'heure, on parlait des dates. Bon, dans les traités de chasse, il est question de la chasse au loup. J'ai dit toute l'année, puisque c'est vraiment un animal mauvais. Il a quand même des dates bien précises qui sont 25 mars, nativité, annonciation. Quant au cerf, qui est vraiment l'animal opposé au loup, c'est 24 juin, 14 septembre. Hein. C'est-à-dire, ça forme vraiment deux pôles de datation assez intéressants, oui. Sur lesquels tu aurais sûrement...
Oui, je crois que ce qu'il faudrait, c'est voir ces dates ecclésiastiques, en quelque sorte. D'abord, avec le fait que deviennent loups-garous les gens qui n'ont plus accès à la communion. Peu à peu, la mélancolie se développe. Ils ont de plus en plus de noir en eux et au bout d'un moment, hors d'eux. C'est la mélancolie. Et ils ne peuvent pas le tempérer de la blancheur de l'hostie. Et ça, les excommunications, c'est clair, vont donner des loups-garous. Alors, quand on a la date du 25 mars, c'est merveilleux, puisque c'est la date théorique idéale, bien sûr, pour Pâques. C'est-à-dire le moment de la communion annuelle. Et donc, le moment où il y a le plus grand risque de loups-garous, juste un peu avant, le 25 mars, puisque au moment de la communion annuelle, les gens n'avaient pas communié, ce dont il faut bien se...
Depuis
près d'un an.
Ouais.
C'est-à-dire était le plus menacé de cette mélancolie. Cette mélancolie et lycanthropie. Ça, c'est le premier cas. Il me semble que la date du 14 septembre serait extraordinaire à voir avec la légende de celui qui aime Frère Loup, c'est-à-dire Saint-François. Puisque Saint-François reçoit les stigmates un 14 septembre, et il les reçoit en présence de quelque chose qui est très important dans la chasse, en présence d'un faucon familier. Et je sais que dans certains systèmes de chasse, il y a le système des entre-deux-croix, c'est-à-dire chasse aux bêtes fauves 14 septembre, 3 mai, chasse au vol 3 mai, 14 septembre.
C'était Conte cruel, le troisième de cinq épisodes de la série Histoire de loup-garou de Lise Andriès pour les chemins de la connaissance, avec le folkloriste et mythologue Claude Guaignebé et la chercheuse et spécialiste de la littérature du XVIIe siècle Sophie Houdard. Première diffusion le 27 novembre 1991 sur France Culture.